Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Puis aujourd'hui, on n'est pas dans une série, on est dans un family talk, une conversation de famille, un moment en famille où on discute. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que tu dises bonjour à ton voisin, parce qu'on va discuter un peu ensemble ces quelques minutes qui sont devant nous. Et si tu es là pour la première fois, juste bienvenue. Puis je suis convaincu que c'est vraiment bien que tu sois là en family talk. Peut-être que tu as entendu parler des séries, tu te dis « Ah, je me réjouis, c'est la fin d'une série, c'est le début d'une autre, je vais venir pour ça. » Et puis tu te dis « Mince, je suis tombé un mauvais dimanche. » J'ai envie de te dire, pas du tout, c'est vraiment, vraiment bien. Au-delà de notre famille, je crois que ce qu'on vit est bon et puis qu'il y a des bonnes choses à prendre pour tout le monde. Donc reste ouvert, ouverte, garde ton cœur ouvert à ce que Dieu veut te dire ce soir. J'aimerais commencer avec vous avec une citation, un adage, quelque chose qu'on dit régulièrement, mais on ne sait pas à qui l'attribuer pour la première fois. Ça dit la chose suivante, si tu veux savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu cette phrase-là ? Si tu veux savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. C'est assez connu, mais en fait, si vous cherchez, on n'a pas une origine claire. On trouve cette idée-là exprimée exactement dans ces mots ou dans des mots assez proches, dans différentes cultures, à différentes époques. Et puis, l'origine n'est pas claire, mais l'idée derrière, elle est assez comprise, on va dire, c'est que c'est nécessaire de prendre en compte notre histoire, nos expériences passées, nos racines, pour prendre des décisions éclairées pour notre futur. Si on veut savoir où aller et quelles décisions prendre, c'est important de considérer derrière le passé. Alors maintenant, je sais qu'il y a un risque aussi quand on dit ça, parce qu'il y a une autre citation extrêmement connue, mais dont on ne sait pas exactement les origines non plus, qui a le vent en poupe, c'est de dire « c'était mieux avant ». Et aussi loin qu'on regarde, un peu pareil dans différentes civilisations et autres, on a cette idée que c'était mieux avant. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour regarder en arrière sans être enfermé dans le passé ? Puis là, je vais vous proposer ensemble de regarder un petit peu en arrière, mais mon but, ce n'est pas du tout de dire c'était mieux avant, ce n'est pas de romantiser ce qui s'est passé, mais c'est plutôt de comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Dans la Bible, cette idée de savoir d'où on vient pour mieux aller où on doit aller, elle est exprimée aussi de différentes façons, au travers de différents personnages, au travers de récits. Et je vais vous en citer deux, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, juste pour posez ça comme ça, si jamais vous dites « mais c'est vraiment pas du tout biblique », parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Dans l'Ancien Testament, on a l'exemple d'un gars qui s'appelle Jacob. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Jacob ? Pas Jacob Banks, hein, Jacob de la Bible. Quelques-uns ? All right. Ah, la référence, il a aimé. OK. Il n'y a pas tout le monde qui a levé la main, alors je vous donne un tout petit peu de contexte sur Jacob. Jacob, c'est un personnage assez obscur. Son nom veut dire l'usurpateur ou celui qui veut prendre la place des autres. Ce n'est pas forcément un role model, ce n'est pas une personne qui dit « Ah, j'aimerais vraiment grandir puis être comme Jacob ». C'est plutôt quelqu'un qui a menti sur sa propre identité. C'est une personne qui a volé, dérobé, il a volé son propre frère et il a fini par devoir fuir sa propre famille. Je vous laisse les détails ici. Et il se retrouve en fuite. Et alors qu'il est en fuite, il va vivre un moment extrêmement fort, comme une rencontre avec Dieu, et puis c'est tellement fort qu'il va décider d'appeler l'endroit où il vit cette rencontre Bethel, la maison de Dieu. Il dit là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est incroyable. Et puis il continue sa vie, puis ça va aller quand même mieux. Il a un départ pas super, mais ça va aller mieux dans la vie de Jacob. Et puis un jour, alors qu'il a rencontré Dieu, que même son identité a été restaurée, on l'appellera Israël par la suite, Dieu va lui dire retourne à Bethel. Et ça, vous trouvez dans Genèse 35. Et c'est alors qu'il est dans un moment carrefour de sa vie, alors qu'il y a des choses nouvelles qui doivent arriver, Dieu lui dit, rappelle-toi, retourne là où on avait vécu cette rencontre. Je veux te parler à nouveau. Donc on voit cette idée de ne pas oublier nos origines, puis même de revenir des fois à nos origines. On le voit dans d'autres personnages, dans d'autres récits, dans certaines paroles de sagesse, dans les proverbes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même Jésus, de façon assez subtile, on peut le voir dans la vie de Jésus. Si vous lisez Jean au chapitre 10, au verset 40, il nous est dit que Jésus est retourné là où les choses avaient commencé avec son cousin Jean-Baptiste. Et il est retourné là où Jean-Baptiste avait l'habitude de baptiser, et puis qu'il est resté méditer là-bas, et puis que des grandes choses se sont passées alors qu'il est retourné à un point qui était important pour lui au départ. Alors aujourd'hui, alors qu'on vit ce moment de famille, puis cette conversation de famille, j'aimerais revenir un peu avec vous sur notre parcours, sur notre cœur, pour bien comprendre ce qu'on vit et ce qu'on va vivre ce soir en particulier. Parce qu'on va vivre, je crois, un changement de chapitre pour notre communauté en tant que home. Et si on veut vivre ce changement de chapitre, c'est bien de se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient là aux soirées vision il y a à peu près 7 ans maintenant? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ces soirées vision? Quelques mains? Ok, come on, les OGs right there. Si ton voisin a levé la main, c'est dire qu'il sait de quoi je parle ici. Avec mon épouse Janet, on a eu ce projet fou à un moment donné de commencer ce qu'aujourd'hui on appelle l'église home. Mais il faut savoir une chose d'entrée, c'est que Janet et moi ne voulions pas du tout avoir ni faire une église. Ce n'était pas du tout nos projets, tu sais, quand on s'est mariés, on dit « comment tu imagines demain? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ce n'était jamais l'idée d'une église, on n'avait pas envie de ça. Ce qu'on avait envie dans notre foi personnelle et puis dans ce qu'on vivait, c'était de voir des gens qui suivent Dieu avec passion entrer dans leur destinée. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'on veut voir un mouvement de disciples. On veut voir des gens qui sont engagés. On veut voir des gens qui sont engagés non seulement lorsqu'ils vont à l'église, mais on veut voir des gens qui sont engagés en dehors de ça, des gens qui s'engagent en tant que disciples de Jésus au quotidien, du lundi au samedi. C'est ça qui brûlait sur nos cœurs. Et on voulait vraiment réfléchir, est-ce qu'on peut favoriser ça? Alors on a réfléchi à des ministères, on a réfléchi à des choses comme ça, un petit peu qu'on pouvait mettre en place, des formations ou autres. Et puis des mentors à nous, des gens qui ont plus de sagesse que nous, nous ont dit, mais en réalité, ce que vous voulez faire, c'est l'église. Sinon, non, les gars, vous ne comprenez pas. Nous, on veut être une réponse au problème qu'est l'Église. D'accord ? Donc, on va faire tout sauf l'Église. Et puis, la réalité, c'est qu'ils nous ont demandé d'aller regarder nos cœurs, d'aller regarder là où on avait des blessures, potentiellement, par rapport à l'Église. Puis ensuite, de regarder ce que la Bible nous dit. Puis comment Dieu en parle. Puis, est-ce qu'on pouvait faire confiance au fait que, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il savait ce qu'il disait. Même si nous, on est assez mauvais à le faire. Est-ce qu'on était d'accord de retourner là-dedans puis de se dire, mais peut-être oui, ça ressemble à une église. Et la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont frustrés, blessés, attristés avec les églises. Puis je pense que dans une large mesure, sans prétendre avoir vécu la même chose que vous, je peux comprendre ça. Je l'ai vécu à mon échelle, à mon niveau. Mais que des fois, à cause de ça, on se réfugie. On se réfugie justement dans des ministères, dans des organismes, dans des œuvres qu'on appelle para-églises. Puis je crois qu'il y a une place puis une raison d'être pour ces œuvres-là, mais je crois qu'il faut qu'on vérifie nos cœurs des fois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va? Est-ce que c'est une fuite ou pas? Parce que je crois que le point de départ, c'est l'église locale. Je crois que le point initial, c'est l'église locale. Que quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église », au cœur de nos actions, de nos stratégies, de nos idées, de nos formes, qui peuvent être fondamentalement différentes, qui doivent être remises en question, éprouvées, qu'on doit même modifier notre façon de faire l'église. Je suis d'accord avec tout ça, mais on doit rester à l'église. Je suis aussi convaincu de ça. Je suis convaincu que Jésus était sérieux quand il disait ça. Et du coup, au départ, on s'est dit, on va alors finalement faire une église. Ça nous a pris à peu près une année et demie de faire la paix avec cette idée. Et puis, on ne savait pas à quoi ça ressemblait. On n'avait aucune idée de ni à quoi ça ressemblait, à quelle heure. La seule chose qu'on savait, c'était Lausanne. Mais c'est tout. Puis alors, on s'est rencontrés avec 7 personnes dans notre salon. Puis on s'est aimés, on a prié, on a discuté, on a préparé aussi des mariages dans l'aventure. Et puis l'idée, c'était vraiment imaginer un instant que Dieu veut nous utiliser pour permettre à d'autres de vivre le royaume de Dieu. Et on parlait beaucoup autour de la parabole du père et de ses deux fils perdus dans Luc 15. Puis on se disait, imagine, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a encore aujourd'hui des gens que le Père, Dieu, veut ramener à la maison? Et est-ce que nous, on ne serait pas utilisés par Dieu pour ça? Est-ce que ça fait du sens, tout ça? Puis on pensait rien d'autre que ça. Et dans ce contexte, un gars que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mathieu Christen, est sorti des toilettes, parce que oui, on allait aussi aux toilettes quand on se voyait tous ensemble. Pas tous ensemble aux toilettes, hein, les uns après les autres. C'est juste la vie, là, tu vois. Et puis alors qu'il sortait des toilettes, il dit « Je sais !» Et si on s'appelait Home ? Puis on se dit « Ça sonne bien, cette idée de maison, cette idée du père, cette idée de rassembler les gens, de permettre aux orphelins de rentrer à la maison, tout ça, on aimait bien, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Tiens, ça sonne comme l'endroit où on met les vieilles personnes. » J'ai dit « Ah ouais, t'étais pas là dans le brainstorm, toi, ça se voit. » Mais c'est ok, on va garder le nom Home, on aime bien ça. Et puis c'est ça qui nous a motivés au départ, et puis sans connaître tous les rouages et tous les virages, c'est ça qui fait que bientôt 7 ans après, on se retrouve ce soir, ce matin, on s'est déjà retrouvés, on était une centaine dans cette salle, c'est ce soir, on se retrouve encore ici, à Genève, ce soir, ils se retrouvent aussi. C'est né de ça, en fait, c'est né de cette envie-là, de voir des gens faire confiance à Dieu et puis fonctionner dans cette idée de aimer Dieu puis s'aimer entre nous et puis de faire de la place pour que d'autres puissent aussi rentrer là-dedans. J'aimerais vous citer ici Henri Nouwen qui a dit la chose suivante, une façon d'exprimer la crise spirituelle de notre époque est de réaliser que la plupart d'entre nous ont une adresse mais ne peuvent pas y être trouvés. Et quand il exprime ça, ce que Nouwen essaie d'expliquer, c'est que peut-être que tu sais comment tu t'appelles, tu sais c'est quoi ton boulot, tu sais un petit peu c'est quoi les prochains mois qui arrivent dans ta vie, mais au fond tu te sens quand même complètement vide, tu ne sais pas qui tu es. Et c'est paradoxal parce que c'est aucun problème pour toi de rencontrer quelqu'un puis de te présenter, puis en même temps c'est très difficile de dire qui je suis réellement. On a une adresse, mais on ne sait pas vraiment, on n'est pas trouvable à notre propre adresse. Et pour beaucoup d'entre nous, en tout cas l'intention c'est de pouvoir créer une maison où le Seigneur, le seul qui nous connaisse réellement, puisse nous dire qui nous sommes. Et que nous puissions construire nos vies à partir de cette réalité-là. Et non seulement pour nous, mais le cœur, c'est aussi de l'élargir, afin que d'autres puissent vivre cette réalité-là. Alors au départ, on nous demandait beaucoup, c'est quoi un petit peu le pourquoi home, pourquoi une nouvelle église, c'est quoi la raison? Puis je pense que naïvement, on disait juste, aimer Dieu, aimer les autres, rentrer à la maison, mais on sentait que pour la plupart des gens, ça ne suffisait pas. Alors on a fait un autre brainstorming, puis on arrivait avec des grandes idées. Puis je veux vous les présenter aujourd'hui parce que des fois on oublie ça, mais je veux vous présenter les trois raisons pour lesquelles on fait home. Puis pour moi, ce qui est important, c'est de vous dire aussi, je crois que de plus en plus, il y a une quatrième raison qui est en train de non seulement se préciser, s'affiner, mais devenir de plus en plus visible. Alors la première des raisons, c'est qu'on a envie de cultiver la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? C'est parce qu'on croit que la seule chose qui a vraiment une possibilité de transformer nos vies et la société, c'est Dieu. C'est pas nous, c'est pas nos stratégies, c'est pas nos grands discours, c'est pas nos capacités, même il n'y a pas de mal à ça. Mais celui qui peut véritablement nous transformer, c'est Dieu. Et il est présent, il est envieux de cela, il est en mission pour ça, mais nous on doit créer des espaces dans nos vies et autour de nous où on rend ça possible, où on rend ça tangible, où on rend ça une réalité. Et ça, c'est notre première motivation. On veut rencontrer Dieu. On veut qu'il puisse transformer nos cœurs. On veut donc que les gens puissent le découvrir, le rencontrer, et que ce ne soit pas juste une rencontre d'une fois, mais que ce soit quelque chose qu'on cultive. Plus que même dans l'Église, on veut que les gens puissent cultiver ça au quotidien, rencontrer Dieu, retourner à Dieu, cultiver sa présence. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'on croit que la rencontre, ça ne suffit pas. C'est bien de rencontrer, mais on veut encourager les gens à prendre une décision. On veut que les gens puissent marcher en disciple, comme on dit ici. On veut que les gens puissent suivre Jésus. Vous savez, les historiens sont d'accord depuis bientôt 100 ans, de façon quasiment unanime, que Jésus a existé. On a plus de preuves historiques de l'existence de Jésus que de l'existence de Socrate. C'est une évidence qu'il a existé, on sait qu'il a existé. La question, ce n'est pas est-ce que Jésus a existé, c'est qui il est pour toi. Et ça, c'est une autre question. Donc on sait que Jésus a existé, et on sait que de son temps, beaucoup de gens l'ont rencontré. On sait qu'il a agité la région dans laquelle il a vécu, ce qu'il a fait, ses discours, on sait que ça a dérangé beaucoup de monde, mais on sait aussi que tout le monde ne l'a pas suivi. Puis aujourd'hui, c'est vrai, on veut cultiver la présence de Dieu, donner la possibilité aux gens de rencontrer Dieu, mais pas seulement, on veut aussi leur dire, et est-ce qu'on le suivrait? Pas seulement le rencontrer, pas seulement, entre guillemets, y goûter. Mais est-ce qu'on serait d'accord de décider de le suivre, de marcher en disciple, de marcher à sa suite? Et on croit que cette invitation, elle est là aujourd'hui encore possible pour chacun de nous, puis on croit qu'elle est fondamentale en fait. Soit Jésus est vrai dans ce qu'il disait, et à ce moment-là je dois me positionner, soit il mentait, puis à ce moment-là j'en ai rien à faire. Mais on ne peut pas être entre deux. Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai, et qu'est-ce que je vais faire de ça? Puis nous on veut vraiment encourager les gens à se positionner face à ça. Et finalement, on veut libérer et envoyer les gens. On est convaincu que Dieu nous aime. Je m'arrête un instant. Dieu t'aime. C'est vrai, il aime le monde et ça veut dire qu'il t'aime toi aussi. Puis il n'aime pas seulement toi de façon générique, il t'aime de façon spécifique. On est convaincu que Dieu nous aime. On est convaincu que Dieu nous invite à sa suite. Tout ça, c'est bien. Mais si on en reste à là, ça risque d'être profondément égocentrique. C'est l'amour de Dieu pour moi et c'est qu'est-ce que Dieu a pour moi. Puis on croit que c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas à toi. On croit qu'il nous invite à aimer le monde à notre tour. On croit qu'il nous invite à œuvrer dans le monde. On croit qu'il nous invite à aller dans le monde. Puis dans ce sens-là, on ne veut pas simplement vivre une transformation puis marcher en disciple. On veut aussi aller à sa suite et aller là où il nous demande d'aller. En d'autres termes, dit pour l'Église, dans le quotidien de ce qu'on connaît de l'Église, on n'est pas tellement intéressé de combien de personnes sont réunies ici. On est intéressé de combien de transformés vont partir là-bas. C'est pas l'intérêt d'ici là. Même si c'est bien, puis on valorise, mais c'est qu'est-ce qui va se passer après, quand on repart? Est-ce qu'on est prêt à être envoyé? Est-ce qu'on est prêt à être une bonne nouvelle pour le monde? Est-ce qu'on est prêt à incarner les valeurs et ressembler à Jésus-Christ là où il nous place? Et on aime le dire ici, 100% des gens sont invités à rayonner pour Christ, et pour 2% des gens, ce rayonnement va se passer dans les murs de l'Église. Alors là, je dois faire une petite aparté, vous m'excuserez. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont depuis trop longtemps dans l'Église. Très souvent, les gens qui sont longtemps dans l'Église ont un fardeau énorme de savoir « c'est quoi mon appel ?»« C'est quoi mon appel ?» Et je comprends, puis il y a une part tout à fait légitime à cette question, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu. C'est que très souvent, ils veulent dire par là « où est-ce que je dois servir dans l'Église ?» Et là, il y a un saut que j'ai de la peine à comprendre parce que je ne le trouve pas dans la Bible. Ton appel n'est pas de servir dans l'Église. Pour une minorité, ce sera ça, mais pour une grande majorité, votre appel sera en dehors des portes de cette Église. Donc il ne faut pas vous mettre une pression incroyable, il ne faut pas commencer à dire « mais je ne sais pas chanter, c'est dommage ». C'est pas grave, t'en fais pas. La plupart d'entre nous, on est meilleurs chanteurs sous la douche aussi, t'en fais pas. Ça doit être, je ne sais pas si c'est le jet d'eau, l'écho, le rideau de douche, je sonne toujours mieux dans la douche qu'à l'extérieur. Il y en a qui disent « moi je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas si je pourrais prendre un micro et dire quelque chose ». T'en fais pas, c'est pas grave du tout. Est-ce que ton appel, il est vraisemblablement à l'extérieur pour une majorité d'entre nous? On doit s'engager dans la société. Et en tant qu'Église, on veut, oui, permettre aux gens de rencontrer Dieu et de cultiver cette présence. On veut, oui, aider les gens dans leur marche de disciples et faire qu'ils grandissent dans leur marche de disciples. Mais on veut aussi les envoyer là où Dieu les appelle. Et on veut être une minorité créative, une base d'envoi qui œuvre pour le bien de là où Dieu nous place. Alors ces trois éléments qu'on a brainstormés, sur lesquels on a prié, sur lesquels on a réfléchi, ils sont résumés dans notre vision. On veut rencontrer Dieu, édifier les croyants et s'engager dans la société. Ça, c'est pourquoi est-ce qu'on fait Home. Très simple, facile, maintenant tu le comprends. Mais je crois qu'on est dans un moment tournant, je l'ai dit, il y a un quatrième élément du mandat que Dieu nous donne en tant qu'Église, qu'on découvre, qu'on sent, qui a été confirmé par des paroles prophétiques, par des personnes aussi qui ont un droit de regard sur notre vie. Et ça, c'est un rôle... On sent que Home a un rôle dans le corps de Christ ou l'Église avec un grand E. Et on sent que Home a une réalité où on doit pas seulement œuvrer pour nous puis pour Home, mais on doit œuvrer pour le corps de Christ et on doit œuvrer avec le corps de Christ. Et on sent qu'il y a vraiment une dimension où on est de plus en plus invité régulièrement dans des communautés pour non seulement prêcher, mais aussi pour équiper, pour former, pour faciliter, pour réfléchir à ce que Dieu est en train de faire. Et il y a vraiment différents pasteurs, principalement en francophonie, mais pas exclusivement, donc y compris en France, y compris en Belgique, qui commencent à nous dire, mais est-ce qu'on pourrait ensemble réfléchir, brainstormer, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous voyez Dieu faire? Comment est-ce qu'on peut, nous, entrer peut-être dans une dynamique un peu différente? Et nous, on l'a appelé jusqu'à maintenant le ministère extérieur, mais on n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé. Peut-être que vous avez entendu de temps en temps, ah oui, mais Cindy, elle a prêché là-bas, ou bien, ah tiens, Raph, il a été là-bas, mais je ne sais pas si vous comprenez que pour nous ici, ce n'est pas juste un petit kiff à côté de ce qu'on fait, on croit que ça fait partie de notre mandat. On croit que ça fait partie de l'appel que Dieu a sur nos vies, sur certains d'entre nous individuellement, mais sur notre vie en tant que communauté plus largement. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser ça, puis j'aimerais qu'on puisse s'engager là-dedans ensemble. Je ne sais pas si vous savez que chaque semaine, c'est des centaines de personnes qui écoutent les messages de cette église, qui regardent les messages sur YouTube. Chaque semaine, c'est des centaines. On reçoit des messages de gens qui sont bénis au travers de ça, qui rentrent dans des dynamiques. Genre, on reçoit des messages de pasteurs qui nous disent « on a suivi toute cette série ». Moi, je suis halluciné quand ça arrive. Je suis comme « ah bon ? Et pourquoi vous faites ça ?» Puis je dis « non, mais c'est vraiment intéressant, on a vu le titre, on a suivi cette série. Est-ce qu'on pourrait la reprendre dans notre église ?» Je dis « mais allez-y, reprenez-la ». Début de cette semaine, j'étais avec quelqu'un, il m'a dit « Yves, j'ai entendu prêcher sur ça, est-ce que c'est OK que je te vole ?» J'ai dit, il faut que tu reformules la chose, là. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que tu me voles. Mais je lui ai dit, écoute, je suis convaincu que si c'était bien pour toi, ce sera bien pour d'autres. Réutilise tout ce que tu veux réutiliser. Et si on peut t'aider, il y a des églises avec lesquelles on réfléchit ensemble sur des séries. Vous allez en entendre un peu plus parler. Mais je crois qu'on doit saisir ça en tant qu'église, plus largement. Je crois que vous devez comprendre, Home le soir, ce n'est pas seulement Home le soir. Home le soir, ça fait partie de quelque chose qui s'appelle Home Lausanne, avec le matin aussi. Et vous devez le réaliser, en fait. Et Home, matin et soir, c'est partie de quelque chose qui s'appelle Home, où ça s'exprime aussi à Genève. Et puis ça s'exprime aussi au-delà de ça. Puis il y a des églises et des ministères qu'on peut aider. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est juste, je crois que c'est un mandat que Dieu nous a donné. D'avoir cette place-là, puis d'entrer dans ce rôle-là. Et je n'ai pas envie que ce soit juste pour quelques personnes qui travaillent à Home, mais que ce soit quelque chose qu'on a conscience ensemble. Et puis qu'on prie ensemble sur Seigneur, comment est-ce qu'on peut aller dans ce mandat-là? Comment est-ce qu'on peut accompagner les autres et œuvrer dans l'unité? Je crois que c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Puis j'aimerais vraiment le souligner, c'est pas mon travail à moi, c'est notre mandat à nous tous. Et surtout si vous appelez Home votre église, c'est notre mandat à nous tous. Et je ne vous le dis pas pour que vous puissiez gargariser quoi que ce soit, il n'y a aucune fierté à avoir, mais il y a plutôt une responsabilité à saisir. Est-ce qu'on vit ici? C'est bon et Dieu veut l'utiliser pour d'autres. Il faut qu'on soit conscient de ça ensemble. Alors je sais qu'il y a 2-3 théologiens et puis vous êtes un petit peu en panique parce que je n'ai pas cité assez la Bible jusqu'ici. Alors je vous propose de prendre un passage qui nous a accompagnés depuis le début de Home, comme ça rassure et puis tout le monde dit « Ah quand même, il y a la Bible ». C'est un passage qui nous a vraiment aidé à construire ce qu'on se sentait appelé à faire et qui continue à nous accompagner dans ce mandat. On le trouve dans 2 Rois au chapitre 2, les versets 19 à 22. Alors, je donne juste un tout petit peu de contexte parce que peut-être vous allez dire que c'est une histoire qui ne veut rien dire. On est ici dans une histoire où on va suivre un prophète qui s'appelle Élisée. Les prophètes, c'était les bornes Wi-Fi à une époque où il n'y avait pas de 5, 3, 4G, rien du tout. D'accord, les bornes Wi-Fi, ça veut dire que c'était eux qui étaient capables d'entendre Dieu puis qui devaient redistribuer ce que Dieu disait. Et ils le faisaient souvent par les mots, mais des fois par leur vie puis par leurs actions. Puis ça, c'est le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Quand Jésus est arrivé, c'est littéralement maintenant on a tous la connexion. Et le mandat des prophètes et le rôle des prophètes a évolué dans une certaine mesure. Donc ils n'ont plus ce rôle unique d'intermédiaire, mais ils continuent à avoir des prophètes, ok? Parce que là, on va voir un gars qui s'appelle Élisée et qui suit un autre qui s'appelle Élie. Et si vous lisez ça sans information, même le peu d'informations que je vous ai dit, vous allez avoir peur. Parce que juste avant le passage que je lis, vous allez apprendre qu'il y avait des groupes, des écoles de prophètes qui suivaient Élie, commençaient à avoir des mots bizarres, et puis un chariot de feu vient, prend Élie, s'en va. Élisée prend la veste d'Élie, tape 2 fois par terre. Mais c'est quoi ce délire? C'était à l'époque des prophètes. Bienvenue. On lit maintenant 2 Rois 2, versets 19 à 22, puis on va voir une action prophétique de la part d'Élisée. 2 Rois 2, 19 à 22. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. » Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, y jeta du sel et dit « Voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » Verset 22, les eaux devinrent saines et le sont restées jusqu'à ce jour conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Fin de l'histoire. Ok. Donc le gars vit un moment majestueux dans sa vie, il voit son maître partir dans un chariot de feu, il prend son manteau, littéralement le cours d'eau s'ouvre, le type arrive et après il prend du sel, il le jette dans l'eau et quoi? Il y a quoi de spécial à cette histoire? Puis si tu le lis sans les lunettes prophétiques, tu dis ça veut rien dire cette histoire. Juste très rapidement, 3 éléments de cette histoire que tu peux comprendre si tu continues à lire la Bible et puis si tu comprends le mandat prophétique justement. Élisée arrive quelque part puis on lui dit la ville va mal. Et lui, il demande quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, amenez-moi un nouveau bol et amenez-moi du sel. Maintenant, tu fais marche avant, là, fast forward, comment on dit ça, avance rapide. Et tu vas à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire beaucoup de choses, mais 2 choses qui font directement écho à ça. Il va dire, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et il nous faut des nouvelles outres pour mettre du vin nouveau. Donc un récipient nouveau. Ça fait écho au récipient nouveau ici. Puis Jésus va dire autre chose. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Et maintenant, tu repenses à cette histoire et tu dis, ah, un récipient nouveau et du sel. Donc, Élisée, à quelque part, en train de dire, il va venir un temps où la solution que Dieu aura, ce sera de réunir dans des structures nouvelles des disciples, des croyants. Et ça ne s'arrête pas là, parce que qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il ne dit pas juste réunissez les disciples ensemble, il dit, prenez-les et jetez-les dans l'eau. Et ça, les amis, c'est la notion d'envoi. Les croyants n'étaient jamais censés juste rester ensemble. Ils étaient censés se répandre. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'au moment où ça se passe, la ville va mieux. C'est le bien de la cité. Puis j'ai envie de vous dire, pour nous, c'est ça, une des images prophétiques de l'Église, puis c'est une des choses qui nous accompagne dans est-ce qu'on est ce récipient nouveau, est-ce qu'on rassemble les gens et est-ce qu'on envoie les gens. Et vous trouvez tout ça dans ce récit-là. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur Élisée, mais le temps avance, alors moi aussi j'avance. Il y a une histoire dans la Bible où le temps s'est arrêté. Je peux t'assurer que des fois je prie pendant mes prédications que le temps s'arrête. J'ai envie de terminer en vous disant, les amis, Dieu est en mission. Et il nous invite à participer à sa mission. Puis nous, en tant qu'Église, on croit aussi qu'on est en mission. Et on ne veut pas faire notre mission à nous, on veut être en mission avec Dieu. Il y a une mission locale, puis il y a une mission large. Et on veut embarquer dans cette mission. Que Dieu est en mission, c'est un concept extrêmement clair. On en a déjà prêché. Si tu as des doutes là-dessus, tu vas sur Google et tu tapes Missio Dei. Et tu verras que Dieu est en mission, puis c'est quelque chose qui est une évidence. Puis nous, on est invités à participer à ça. Puis j'aimerais vraiment que vous le réalisiez, puis j'aimerais que vous compreniez qu'on met en place des structures qui nous permettent de vivre cette mission. À chaque fois, moi je suis pas le plus grand fan des structures, mais je suis convaincu qu'on a besoin de structures. Je vais te donner un exemple extrêmement concret. Je suis pas le plus grand fan des plannings de repas. Mais dans ma vie de famille, où on est 6 avec 4 enfants qui ont tous moins de 8 ans, je vois l'importance d'avoir une structure claire. Parce que si on n'a pas cette structure, c'est le chaos à la maison. Je sais qu'il y en a certains, vous êtes dans les feux de l'amour, là, c'est incroyable, on s'aime, tu m'aimes, je t'aime, moi aussi, je t'aime aussi, machin. Puis vous avez le privilège incroyable de vivre ces moments magiques où on se regarde dans les yeux puis on dit, on mange quoi ce soir? Oh, je sais pas. Juste être ensemble, c'est suffisant. Ouais, j'ai quand même un petit creux. Moi, je rêve de pouvoir encore faire ça. Mais moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des monstres qui deviennent des gremlins, si c'est pas clair ce qu'on mange, puis qui commencent à escalader leur chaise, puis qui montent sur la table et qui prennent la lampe. J'ai faim, j'ai faim. Moi, j'ai pas le temps de regarder ma femme dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Toi aussi. On a besoin d'une structure. D'une structure. On n'a pas de plaisir avec cette structure, mais c'est juste si on veut continuer la mission de vivre avec cette famille puis de survivre avec cette famille, on a besoin d'une structure. Tu comprends? Et de la même manière, en tant qu'Église, on a besoin d'une structure. On a besoin d'une structure qui va accompagner notre vie et qui va nous permettre de vivre et d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Vous comprenez? Donc je vais vous parler un tout petit peu de ce qui se passe et de ce mandat. Je vous ai parlé de ce mandat, puis j'ai envie de vous dire, en tant que famille, vous devez être concernés. Vous devez être concernés, puis on va évoluer dans la structure. Aujourd'hui, c'est un moment tournant pour la vie de Home, parce qu'on va évoluer un petit peu, un petit pas. Vous allez voir, en même temps, c'est un grand changement, puis en même temps, ça ne veut pas dire que tout va bousculer la semaine prochaine. Mais c'est important que vous le compreniez et que vous embarquiez avec nous. J'aimerais, avant de vous parler de ces changements qu'on va vivre, vous donner 4 clés, 4 façons de vous tenir avec nous dans ce mandat que j'ai exprimé. Puis ces réalités-là, j'ai envie de vous dire, elles sont en particulier très importantes si vous appelez Home votre église. Vous êtes prêts? Ça va être très vite, hein. 4 choses. Vous êtes prêts? Ok, pour les 3 qui ont dit oui, les autres, tant pis, vous vous rattraperez. La première des choses, engagez-vous relationnellement. Si on est une famille, on doit avoir des relations. Et des relations qui vont un petit peu plus profond que juste salut au début du culte. Ça, c'est le point d'entrée, peut-être. Mais il faut qu'on aille un peu plus à fond dans les relations. Et maintenant, je vois votre peur, je vois vos yeux, je vois vos pensées. C'est pas magique ce que je dis là. Je vous dis pas que vous devez être amis avec tout le monde. Puis je vous dis pas que c'est réaliste de connaître tout le monde. Mais je vous dis, c'est un problème si vous restez seul. Et je pense qu'entre les deux, là, il y a de l'espace, d'accord? Pour certains, en fonction de votre saison de vie, en fonction de votre caractère, vous aurez peut-être 15, 20 personnes autour de vous. Pour d'autres, vous en aurez 5, c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas rester seul. Si on est véritablement une famille, il faut qu'on s'engage relationnellement. Il faut qu'on tisse des liens, il faut qu'on connecte. Comme on aime le dire, il faut faire la vie ensemble. Il faut refuser de simplement venir ici le dimanche, puis de consommer quelque chose qui nous ferait peut-être un peu du bien. Mais dire, en fait, si c'est une famille, comment est-ce que je peux tisser du lien? Comment est-ce que je peux rencontrer du monde? On est en mission. On n'est pas juste un service spirituel que vous recevrez, on est une famille dans laquelle on s'enracine. Et ça, les amis, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est profondément contre-culturel. Mais j'ai envie de vous dire, embarquez avec nous là-dedans. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans notre mission. La deuxième des choses que j'ai envie de vous dire, c'est participer à cette vie de famille, contribuer à la vie de famille. Je vais le dire autrement. Soyez mature. Vous savez, je vous le dis, j'ai des enfants, puis il y a une chose que je réalise en tant que parent. J'aime à fond mes enfants. Et je les aime tellement que je refuse qu'ils restent immatures. En fait, je dirais ça autrement. Si je les laissais rester immatures, ce serait une preuve de mon manque d'amour. C'est parce que je les aime que je veux qu'ils grandissent. Alors que vous me compreniez vraiment bien, je pense qu'il n'y a aucun enfant plus beau, plus chou, plus attendrissant qu'eux. Mais il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils grandissent. Je vous parle juste d'un exemple. Là. C'est mon gars qui s'appelle Jelani. J'ai deux jumeaux. Un de ces deux s'appelle Jelani. Jelani est incroyable. Mais pour une raison qui reste obscure pour moi, il est convaincu qu'il est fils unique. Le type arrive, il a jamais eu ça. C'est même pas le premier de la fratrie où il pourrait se dire, ouais, pendant 5 ans, j'étais seul. Non, moi, même dans le ventre de ta maman, t'étais avec quelqu'un. Il n'y a pas moins seul que toi. Mais ce gars-là fait des crises comme s'il était fils unique. Non, c'est moi d'abord. Man, calme-toi. Tu as des frères et sœurs, il y a des parents ici, il y en aura pour tout le monde. Non, il fait des crises. Ça ne change rien à mon amour. Mais je ne vais pas tolérer cette immaturité, vous comprenez? Faut que tu mûrisses, mon gars. Faut que tu mûrisses. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Justement, c'est parce que je l'aime que je dis ça. Et j'aimerais des fois dire, dans l'église, c'est surprenant comment on tolère l'immaturité. Les gens arrivent, puis ils ne comprennent pas trop, ils ne savent pas trop. Puis c'est normal, ça va, c'est le début. Mais des fois, je me dis, mais ça fait 15 ans que tu es là. Peut-être le temps que tu te brosses les dents tout seul, tu ne crois pas? C'est le temps que tu arrêtes de penser que tout est fait ici pour toi. C'est quoi cette immaturité? Comment est-ce que c'est possible que tu sois encore à ce point immature? Et si jamais vous trouvez que je suis dur, allez lire Paul. Vous verrez à quel point il ne cesse de dire « Jusqu'à quand? Mais ce n'est pas possible. J'aimerais vous dire des choses nouvelles. Vous en êtes encore là. Mais j'aimerais vous présenter de mature, comme des adultes devant Dieu, mais vous êtes encore des petits-enfants. » Il n'arrête pas de dire ça, les gars. Donc si vous trouvez que je suis dur, allez lire Paul, ok? Contribuez à la vie de la famille, soyez mature. Dites-vous comment est-ce que je peux non seulement me réjouir, comment est-ce que je peux bénéficier, mais comment est-ce que je peux participer à ce qui se vit. Des fois, c'est pas vous parce que vous êtes vraiment bien home le soir, c'est peut-être home le matin, je sais pas. Mais peut-être ce que je vais dire là, c'est de Genève, j'en sais rien. Mais des fois, je me dis, mais on dirait une bande d'ados. Tu sais, les ados, ce qu'ils font quand ils arrivent à la maison, on cuisine pour eux, on fait leur lessive, on fait leur truc, on s'occupe de payer leurs factures. Et tu dis à un ado, tu pourrais juste, s'il te plaît, passer le balai à la fin du repas. Je suis un esclave ici. Et des fois, j'ai juste dit, bro, relax. Regarde un peu ce que ta maman et ton papa font. Passer le balai, ça va aller, je crois que tu vas t'en sortir, mon gars. Mais des fois, tu dis à quelqu'un, hey, vous pourrez nous aider. Je sais pas, je suis désolé, mais vraiment, je fais déjà beaucoup. Alors si. En fait, c'est pas faire beaucoup de venir à l'église, en fait. Tu peux participer à cette vie ici. Tu peux contribuer à cette vie ici. Puis alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ils se cachent aussi derrière les excuses spirituelles. Je vais prier pour voir si c'est mon appel. J'ai réglé l'histoire de l'appel juste avant, d'accord ? Sans doute que ce n'est pas ton appel. Puis j'ai envie de te dire, toutes les personnes matures savent ça. Pas plus tard que ce matin, j'ai sorti une échelle monstrueuse qui est là derrière. J'ai essayé de ne pas shooter, il y avait un gars qui faisait du piano ici, il y avait les trucs, j'ai essayé de ne pas shooter personne. J'ai mis l'échelle, je suis monté, j'ai réglé les lights pour qu'on puisse vivre le service. Tu sais que pas une seule seconde, je me suis dit, est-ce que c'est mon appel de faire les lumières à l'église? Je le ferai seulement si j'ai la conviction de Dieu et puis 18 confirmations dans le ciel de savoir si c'est... Non. J'y vais, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est la famille, on est bien ici. Puis parce que je pense que ça participe à ma maturité. Participer à la vie de famille, c'était mon deuxième point. Engagez-vous relationnellement, participer à la vie de famille. Troisième point extrêmement important, prier. Moi, j'aimerais te dire ici, les responsables ici, les leaders, prient pour toi. Je le sais parce que chaque semaine, le vendredi, on a 30 à 45 minutes où on prie. Et on prie pour les sujets de l'Église, on prie pour les gens de l'Église. On prie pour toi. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais j'aimerais te demander, est-ce que toi tu pries pour l'Église? Est-ce que toi tu pries pour ce qui est en train de se passer? Est-ce que toi tu pries pour dire, Seigneur, j'ai envie d'embarquer dans ce qui se passe, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de t'encourager, prie, parce que tout naît dans la prière et tout est soutenu dans la prière. Et on va veiller, on va essayer de trouver des façons de pouvoir plus communiquer avec vous de ce qui se passe au niveau de l'Église pour que vous puissiez engager davantage avec la prière. Mais des fois, je trouve dommage. on dit les choses, ah, je ne savais pas, mais tu sais, il y a des gens qui, peut-être certains vous êtes là, qui ont embarqué dans un parcours alpha, des gens qui ne connaissaient pas grand-chose sur Dieu ou sur l'Église ou qui avaient des images brisées, puis ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'il y a toute une équipe ici de Home qui chemine avec eux, qui leur explique, qui prend. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a du monde qui prie pour eux à part les responsables? Je ne sais pas si tu réalises que sur cette année, à Home, on a plus d'une dizaine de baptêmes. Est-ce que tu pries pour les baptisés? Est-ce que tu pries pour ceux qui ont fait cette décision? On a des actions du genre Love Lausanne, et puis des fois, ouais, je ne sais pas si je peux y aller, si je ne peux pas y aller, moi je ne suis pas du soir, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas. Ok, mais est-ce que tu peux prier pour eux? Est-ce que tu pourrais te tenir dans la prière pour eux? C'est important qu'on se tienne ensemble dans la prière. Puis j'arrive à mon dernier point, puis c'est un point un petit peu sensible. Quelqu'un m'a dit, mais ce matin, je prêchais le même message ce matin, et quelqu'un m'a dit qu'on parle de ça dans une église suisse, bravo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit comme ça, cool. Si tu appelles Home, ta famille, contribue financièrement. Contribue financièrement. J'aimerais dire, il y a un paradoxe, c'est qu'à Home, on ne parle pas chaque semaine des finances. Le plus qu'on va te dire, c'est à la fin du service, on dit, hey, si jamais tu veux donner quelque chose, exerce ta générosité, tu peux donner quelque chose, twin, cash, comme tu veux. Puis ça s'arrête à peu près là. On n'en dit pas beaucoup plus. Puis c'est intentionnel. On n'a pas envie de te mettre la pression à chaque semaine que tu dois donner de l'argent. On ne croit pas que ce soit juste de faire ça. Maintenant, une fois par année environ, on fait une série en entier sur l'argent. Et on prend le temps parce qu'on ne veut pas te dire tu dois donner de l'argent, mais on veut t'enseigner sur l'argent. Puis on ne veut pas que tu donnes plus d'argent, on veut que tu mûrisses dans ta façon de gérer ton argent. Maintenant, ce que je dis de contribuer financièrement, c'est parce que, en fait, il y a une réalité que si on se tient ensemble en mission, ça va nous prendre quelque chose. Ça va nous prendre notre temps, ça va nous prendre nos ressources, mais ça va nous prendre aussi notre argent. Puis je crois qu'on doit réaliser ça. Il y a beaucoup de choses où on aimerait aller de l'avant, puis on en parle des fois avec le comité, on se disait, mais ah, il y a ces choses-là, ce seraient des bons projets, on croit que c'est juste pour Home, on a l'impression que c'est la prochaine étape. Mais une des questions qui est légitime, puis le comité fait un incroyable boulot, c'est de se dire, est-ce qu'on a le budget pour ça? Puis des fois, le budget ralentit. Alors, j'ai envie de te rassurer tout de suite, on n'est pas en train de faire des budgets incroyables. Non, on est juste en train de dire, est-ce qu'on peut aller? Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Est-ce que le budget le permet? Puis on réalise, et puis c'est pas des secrets, si tu regardes les chiffres qui sont là lors des AG, qui sont des moments publics, oui, il y a de l'argent, puis je veux vous remercier pour tout l'argent qui est là. Mais il y a un constat, on a un nombre. Et puis alors moi, tu sais, il y a des gens qui sont bons en maths, il y a des gens qui sont bons en dessin, moi je suis bon à ni l'un ni l'autre. Je suis bon en lettres. Mais il y a un truc que j'arrive à faire. C'est que quand je vois les entrées annuelles, puis je sais combien on est, il y a une moyenne que je peux faire de combien on donne. Puis quand je fais cette moyenne, je peux me rendre compte que finalement c'est un beau montant. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'on ne donne pas beaucoup, puis parce que je sais que les moyennes, c'est ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y en a peu qui donnent beaucoup, puis une grande part qui ne donne pas beaucoup. Puis je ne veux pas te mettre la pression, la culpabilité ou quoi, je veux juste t'encourager. Comment est-ce que tu contribues à cette vie de famille? Alors pour te donner une petite illustration, pour que tu comprennes ce que je veux dire, est-ce qu'il y en a ici qui se sont mariés dans les 3 dernières années? Vous pouvez lever la main? Yeah, well done, il y a un seul couple, comment? Est-ce qu'on peut les applaudir? Yeah! Si tu te maries, il y a une chose que tu sais, c'est qu'à un moment donné, que tu aimes ou que tu n'aimes pas cette question, il faut faire un budget. À un moment ou un autre, parce que tu sais que réserver une salle, tu sais que prendre un traiteur, tu sais que ça va prendre de l'argent. C'est pas le monde des bisounours. Et du coup, tu fais un budget. Imagine un instant que je dise à ma fiancée, je suis marié là, mais imagine que je dise à ma fiancée, je t'aime de tout mon cœur, j'ai mis un genou au sol, il y avait des drones qui filmaient ça, on a la plus belle des vidéos sur Instagram et tout ça. Cette fois-ci, c'est toi et moi. Et que ma fiancée dit, c'est incroyable, moi aussi, je t'aime. Puis je dis, mais par contre, il faut que tu saches une chose, je ne donnerai pas d'argent. Voilà, tu vois la réaction, la plupart disent, quoi? Attends, je crois, on peut recommencer l'histoire? Ouais, mais tu sais, moi je t'aime et on vit d'amour, ça suffit. Non, mon coco, si tu m'aimes, si tu veux qu'on se marie, il va falloir que tu mettes un peu de cash dans l'histoire. Et ça, on le sait, puis ça nous semble une évidence. Alors, posons-nous la question, à quel point on s'aime ici, puis on a envie d'aller dans la mission que Dieu nous donne? Pourquoi ça ne nous coûterait rien? Est-ce qu'on croit que ça ne nous coûte rien? Et moi, je vais terminer juste en disant, il y a une règle de leadership que je refuse qu'on vive dans cette église. C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle nous dit que 20% des gens contribuent à 80%. Si tu le prends par rapport aux finances, c'est-à-dire que 20% des gens contribuent à 80% des finances, du budget. Et moi, quand j'ai lu ça, j'étais là, oh, moi j'aime trop le leadership, j'ai lu, c'est génial, j'ai commencé à faire des petits schémas et tout ça. Et quand je suis arrivé sur la question des finances, j'ai dit non, mais par contre ça, je le refuse dans mon église. Je refuse que mon église, elle tourne grâce à 20% des gens. Moi, je crois qu'on doit tout donner. Et c'est d'ailleurs un des champs, hein. On doit tout donner. On veut suivre Jésus. Puis je crois que ça va prendre aussi nos finances. Puis moi, je dis, notre budget à nous, il va tenir grâce à 100% des gens qui se tiennent dans ce budget. Alors, je m'arrête là-dessus. Puis si tu es mal à l'aise, pardon, désolé. Si tu trouves que ce n'est pas assez suisse ce que je viens de faire là, de parler d'argent au micro, désolé. Deal with it. Débrouille-toi avec ça. Tu peux aller réécouter les séries qu'on a fait sur l'argent. Je veux que tu saches aussi qu'il n'y a aucune pression, qu'on ne veut pas te demander, il faut absolument que tu donnes, mais j'ai envie de t'encourager. Si tu veux te tenir avec nous dans la mission, à quel point tu t'engages aussi avec les finances? Parce que je vous assure qu'on pourrait aller, et aller sans doute un peu plus vite dans notre mission, si on s'engageait ensemble dans nos finances. Alors je viens de vous rappeler d'où on vient, notre mandat, et puis pour que vous compreniez ce qui se passe un petit peu, comment vous pouvez vous engager là-dedans. Puis je l'ai dit plusieurs fois, on vit un moment historique aujourd'hui. Parce que dans le cadre de Home, on a le service du matin, Home Lausanne ici, on a le service du matin, puis on a le service du soir. Et puis ça fait un moment qu'on parle de ça, puis que vous avez pu vivre ces choses-là, le service du matin, le service du soir. Et en fait, pendant longtemps, on avait une équipe pastorale où on était 5 dans cette équipe pastorale. Et puis on sent qu'il faut passer un nouveau cran, et puis il faut libérer un petit peu. On croit qu'il y a un appel spécifique au sein du mandat que je viens d'exprimer. On croit qu'il y a un appel spécifique pour Home Lausanne le soir et un appel spécifique pour Home Lausanne le matin. Et on veut libérer puis entrer dans ce que Dieu nous demande de faire pour ces deux sites d'une même église. Donc ça fait depuis environ février-mars qu'on a essayé de travailler gentiment vers une forme d'autonomisation de ces services entre le matin et le soir. On reste une église. On reste, la plupart du temps, on a les mêmes séries de messages. Des fois, on a des messages différenciés, mais c'est exceptionnel. La plupart du temps, on est ensemble. Mais on veut que vraiment chacun de ces services puisse développer les spécificités puis entrer dans ce que Dieu a pour ce service. Et l'autonomie, ça signifie aussi qu'on veut libérer des espaces pour pouvoir davantage entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et pour ça, on ne veut pas centraliser puis continuer à centraliser puis avoir une équipe pastorale qui gère tout, mais on veut libérer avec des équipes de leaders. Puis vous avez des équipes de leaders, on en a parlé, ça fait un moment. Donc dans l'équipe pastorale, je vous donne des noms si jamais. Vous aviez donc Jonas, Nadège, Raph, Janet et moi-même. Et puis dans les équipes du matin, il y avait aussi Bunty qui travaillait. Puis dans l'équipe du soir, il y avait aussi Cindy qui travaillait. Et en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a reconnu Bunty dans une fonction et un rôle pastoral. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va reconnaître Cindy dans un rôle pastoral. La plupart, vous êtes contents, là, c'est bien. Il y en a qui disaient, ah bon, c'était pas le cas? Je savais pas. Waouh, ok. Et c'est un peu ce qu'on veut aussi, c'est-à-dire qu'on veut pas forcer au travers du titre une personne de fonctionner d'une certaine manière, mais on veut reconnaître avec le titre ce que la personne fait déjà, en fait, et qui elle est déjà. Et si vous êtes régulièrement ici le soir, non seulement vous connaissez Cindy, mais si vous avez interagi un minimum avec elle, vous connaissez son cœur pour la communauté et son cœur pour le service du soir. Et ce qu'on veut, c'est vraiment non seulement la libérer, la bénir dans ce sens-là, mais on veut aussi reconnaître, et ça c'est extrêmement important, on veut reconnaître cet appel sur sa vie. On veut reconnaître qu'elle a un appel en tant que responsable d'église et on veut le déposer dans sa vie. Non pas comme un poids, mais plutôt comme un privilège puis un cadeau. Puis je crois que c'est important qu'on le fasse ensemble. Donc, je l'ai dit, il y a des différences, il y a des changements. C'est encore mineur, vous allez voir. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout explose là demain ou quoi que ce soit. On va continuer à avancer là-dedans, puis on va vous en donner plus de nouvelles. Puis vous allez voir, vous allez continuer à vivre ça. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe régionale qui est maintenant composée de 7 pasteurs. Et Bunty et Cindy rejoignent cette équipe-là. Et ils sont engagés aussi par Rome dans ce sens-là. Donc ça va nous permettre de nous occuper de la dimension locale d'une façon un petit peu différenciée, de mieux avancer au niveau de ce qui se passe au niveau local. Mais ça va aussi, et ça c'est important dans tout ce que j'ai dit avant, ça va nous permettre de dégager de l'espace et du temps pour penser à la dimension globale. Qu'est-ce que Home au niveau global fait? Qu'est-ce que Home fait au niveau de Genève? Est-ce qu'il y a des prochaines implantations qui arrivent? Comment est-ce qu'on travaille plus largement avec le corps de Christ? Et ça va nous demander aussi d'entrer là-dedans. Alors, je m'arrête ici. Cindy, est-ce que tu peux me rejoindre? Comment on peut l'applaudir?
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.